sans tarder, je passe directement à mon travail qui s'intitule l'espace, outil de recomposition du corps féminin fragmenté. Le travail se répartit en trois grands axes. D'abord, une étude phénoménologique de ce corps, d'un corps hors norme, l'art du fragment. Et en deuxième lieu, je vais examiner le caractère énigmatique de ce corps, considéré comme un logogriffe, un hiéroglyphe. Et en dernier lieu, on va voir cet espace également comme une ultime tentative de décodage. Alors, depuis la mort de Balzac, nous n'avons pas encore vu un livre de cette valeur et de cette force. De ces mots, Théophile Gautier commente l'apparition d'une vieille maîtresse en 1851. Si cette publication de ce roman de Barbey d'Aurevilly fit scandale, c'est surtout à cause de son personnage, Bellini, la femme mystère qui a fait la force du roman. Une femme dont la vigueur de caractère nous parvient par détail proportionnellement aux descriptions des fragments de son corps. Ce sont les yeux, la bouche, le nez, la chute des reins et d'autres détails qui, au lieu de permettre le traçage des contours du corps de la Senora, accentuent en contrepartie son côté énigmatique. D'où tout le charme du personnage et de l'œuvre aussi. Le corps que nous recevons par morceaux, qui ne se dit qu'à moitié, invite des sens, de par son côté énigmatique, au déchiffrage et à la recomposition. Par conséquent, se perd l'activation de cette puissance majeure de nature humaine, c'est-à-dire l'imagination. Dans un siècle qui ne laisse apercevoir des corps qui peuplent sa littérature, que des fragments, l'auteur, comme le lecteur, ont intérêt à interpeller leur imaginaire. La porte s'ouvre ainsi grande ouverte à maintes pistes d'exégèse, et la page blanche devient l'espace de l'image et de sa négation, de l'énigme et de ses codes, du dit et du non-dit. Le créateur comme le récepteur deviennent fortement actifs et opérateurs dans le processus de création, de reconstitution du corps féminin. Leur implication directe sollicite l'application et l'acharnement du fait même de la difficulté qu'impose d'essence le corps dans son traitement. En réalité, cette force vide qui remplit la littérature, pour reprendre la périphrase de Genette, fait tout le charme de l'œuvre littéraire qui tire sa valeur de cette aptitude à la nuance, se prêtant à l'analyse et à l'approfondissement. Le corps féminin, cette réalité purement physique, s'use de l'arme du mot pour tracer ses contours. L'aboutissement de cette opération, son échec ou sa réussite, reste désormais enclin aux compétences du mimésis, à ses forces et à ses limites. Les nombreuses spécificités qui s'accordent intrinsèquement au corps féminin font de son traitement artistiquement et plus précisément littérairement un terrain fertile. L'investissement par morceaux accentue encore plus son intérêt. Cette étude que nous proposons investit surtout le potentiel érogène du corps féminin, tente de l'inscrire dans son cadre spatial qui devient un paramètre important du processus de décodage et de recomposition. L'appartement de Bellini est confectionné selon ses propres goûts, exploitant toutes les ressources du mystère qui marquent les parties de son corps, à l'exemple de ses yeux dont la profondeur est inhérente au concept du repli et de l'intimité. De même, bizarrerie et fantaisie s'entremêlent dans le décor de son cabinet pour laisser entrevoir, derrière le lieu habité, le corps d'une femme indomptable et mystérieuse. On propose de creuser cette approche de l'espace qui se met au service du corps féminin, une approche qui passe d'abord par une étude phénoménologique de ce corps hors norme, de la Senora, corps énigmatique, support d'une identité difficile à repérer. Donc la première partie de mon travail, une phénoménologie du corps, d'un corps hors norme, l'art du fragment. Alors, une vieille maîtresse est sans aucun doute l'œuvre du corps féminin par excellence. Son texte regorge de références à la chair. Une chair stagnée, une chair en mouvement, la chair noble, celle d'Hermengarde, la chair d'une maîtresse, la chair qui s'éteint, l'autre qui s'affiche et s'épanouit, la chair discrète et la chair qui s'investit à fond, et c'est surtout cette dernière qui nous retient essentiellement. Nous proposons dans cette étude phénoménologique de l'examiner ou d'examiner les fragments du corps féminin tels qu'ils apparaissent dans le texte, indépendamment de tout savoir constitué. On s'intéressera plus clairement à la matérialité du corps, à ses morceaux et à ses moyens. En dehors du rapport du corps avec l'identité ou des deux avec le milieu externe, la femme Bellini s'impose dans l'œuvre de Barbey d'Aurevilly en tant Qu'est-ce Ce qui rend ce corps d'une grande importance, c'est surtout son impact sur le cours des événements au sein de la diégèse. Ses apparitions riment avec action et rebondissement, et ces fragments donc qui nous viennent par intervalles font scandale à chaque fois. C'est le regard qui glace, le mouvement qui charme, les lèvres qui enflamment et plusieurs autres détails d'un potentiel purement érotique que nous dispense le texte d'une vieille maîtresse. La description du corps repose sur deux grands facteurs, le paradoxe et la singularité d'un côté, et l'énigme et le mystère de l'autre. Dès le début, on est renseigné sur la contradiction qui meut le corps de Vélénie. Le narrateur débute par un long passage descriptif réservé à une chair éclatée, singulière, indéchiffrable, ayant besoin d'emblée d'éclaircissements tels que, je cite, « une femme soudainement laide » ou encore « la comparaison avait alors toute la surprise du contraste ». Ce commentaire fortement opérationnel sur le plan diégétique devance des morceaux du corps à l'exemple de, je cite, « petite et maigre, peau qui manquait ordinairement de transparence, un ton foncé, front projeté durement en avant, le nez se creusait un peu à la racine, une bouche trop grande, poitrine extrêmement plate, ainsi de suite. Au flou que suppose l'éclatement du corps sous la plume de l'auteur, vient s'ajouter l'énigme qu'impose la chair de cette femme hors norme. Dès lors, on est face à la délicate opération de reconstitution qui nécessite d'un côté les compétences de l'écrivain et l'attention du lecteur, ainsi que l'imaginaire de ces deux pôles de l'acte d'écrire. Le flou s'amplifie car les morceaux se métamorphosent. Le secret de ce corps restera enfoui pour tous les personnages de l'œuvre. Tout ce qu'ils saisissent, c'est que c'est un corps hors norme, une femme qui ne ressemble pas aux autres. Dans le premier portrait de l'héroïne, l'auteur adopte une stratégie descriptive, conscient alors de la fine tâche de la plume, se chargeant de donner à voir un corps mystère. Sa technique ressemble à celle de l'art pictural, la technique du touche. Ce procédé vient ensuite suite à une vue panoramique, une vue d'ensemble sur l'allure, la taille, le teint, le ton, pour tracer rapidement les traits du visage, comme pour le cerner avant qu'il n'échappe, le front, le nez, la bouche, en se plongeant vers le bas de la tête au buste, à la poitrine, et plus tard dans le texte, les reins, les jambes, et sans aucun doute, le mouvement qui revient pour homogénéiser tout ce qui reste, un tout qui reste pourtant donc éclaté dans le texte. Notons à ce propos que c'est par la description du mouvement que se distingue Barbey d'Aurevilly, ce qui imprègne le corps d'une touche originale, le meut de vie et le donne à voir. L'auteur, comme le lecteur, ne réussissent guère à ranger ce corps dans une classification, à superposer les fragments avec le répertoire de femmes préexistantes dans la mémoire individuelle. Corps difficile à classer, il lui convient donc bien d'être rangé dans une espèce à lui, ce qui explique tout ce tas de détails nécessaires à la définition d'un phénomène nouveau. Dans l'histoire de notre œuvre, à force de détails, le corps de la Senora devient indéchiffrable. L'auteur varie les techniques descriptives et ménage les catégories discursives pour fournir des codes de déchiffrage. Ce sont les parties du corps simplement décrites qui expliquent le drame d'Ermengarde, l'épouse ou de Madame de Mandeuse, l'ancienne maîtresse, ce qui constitue le sujet de plusieurs passages narratifs dans le texte. Et c'est également le corps en action qui bouge, qui se déplace, se renverse ou se penche, qui déclenche des poses descriptives. Les limites se brouillent ainsi entre les formes du récit pour laisser entrevoir un corps dont la fragmentation reste pourtant fatale. En plus des procédés précédemment cités, qui se mettent au service d'une phénoménologie du corps, s'ajoute l'art du mouvement, un art que l'auteur, comme son personnage, utilise et maîtrise parfaitement. C'est d'abord un outil que Barbey d'Aurevilly fournit à son lecteur pour l'aider dans sa mission de décodage de ce corps qui résiste à l'appréhension et à la compréhension. Et pour Vélénie, privée d'une beauté éblouissante comme celle d'Ermengarde ou d'Olivia, c'est également son arme pour exister en tant que femme et s'affirmer en tant que corps assouvi et assoiffé d'amour et de tendresse. La pose de Vélénie sur sa peau de tigre, les courbes qu'elle dessinait avec son corps dans cette posture qui semble convenable à un tableau impressionniste, charge cette représentation d'un coefficient érogène. La réaction de Marigny qui s'approcha, la prit subitement, je cite, et doucement par-dessus les reins, ainsi avec sa peau de tigre, souligne l'impact de ce corps. Nous saurons plus tard que cette indolence et cette nonchalance rend Reynaud esclave de cette femme avec laquelle il se lie mystérieusement et fatalement. À la description de cette attitude corporelle succède un passage qui met le point sur un autre fragment de du corps qui contient l'un des secrets de cette femme indomptable, à savoir la taille. Madame Hensley, à ce propos, il y a plus que 5 noms qui sont donnés à Vélie, ce qui conforme encore ce caractère changeant corps de cette femme. Donc je cite, Madame Hensley était petite, les hanches plus élégantes que fortes, mais la chute audacieuse des reins accusait l'origine mauresque. On est face à une femme qui sait se faire et se confectionner ses propres moyens de séduction, qui sait mettre, elle comme l'auteur, l'accent sur ses fragments forts et les adapter au service de ses goûts. Vélini, contemplée comme un tout indissociable, ou comme des parties parsemées sur l'espace de la page, mais en tout cas l'image demeure incomplète, car il reste toujours quelque chose de non dit, de non exprimé, faisant peut-être l'essentiel de son charme et celui du texte orwellien. Vélini, qui, je cite, se renversait tout en causant sur le dossier de son fauteuil avec des torsions énivrantes, ou qui reprenait, je cite encore, sa pose rigide d'avant-souper auprès de la cheminée, sublime par le mouvement les traits de son corps et donne à voir la chair en action, ce qui se présente à l'œil, s'agite également devant le regard, se modèle et se façonne. On a à contempler donc des jambes en action, les reins qui se déhanchent, dans un mouvement dont elle seule maîtrise l'art et possède le secret. Le mouvement qui révolutionne constitue pour l'auteur comme pour le lecteur l'une des tentatives de déchiffrer le corps. Je cite, « C'est vraiment par le mouvement que cette femme était reine et reine absolue, reina netta », confirme le narrateur. Lorsque Vélini trempait sa lèvre avec une sensibilité pleine de flammes, elle donne à voir et non pas seulement à lire, voir un spectacle éblouissant, celui du corps en mouvement. Alors, l'adaptation de l'œuvre à une représentation à ce propos, à une adaptation cinématographique en 2007, n'était pas à la hauteur de l'écrit, n'a point atteint la finesse de style à mon égard, orwellien de l'écriture. Catherine Breillat, la réalisatrice, avec toute la focalisation qu'elle faisait sur le corps féminin et ses puissantes potentialités érotiques, a privé Vélini de l'aura, du mystère qui l'enveloppe et fait tout son charme. Au moment où l'image en tant que telle aurait dû nous faire parvenir la représentation du corps fragmenté de Vélini dans le texte de Robili, dans sa forme complète et accomplie, au cinéma, on se heurte à une vision dénuée de caractère et d'originalité. Ceci revient peut-être à l'effet de mystère que l'image ne possède pas totalement, mais que le mot remplit pleinement. C'est là toute la poétique du non-dit, l'art de ce qui se dévoile à moitié, entre les lignes, en dépit du détail et de la précision de la description. Le corps nous résiste, ses fragments compliquent la tâche, son mystère nous charme et nous appelle au décodage. Je passe à ma deuxième partie, le corps énigmatique qui est considéré, je reprends les mots de l'auteur, comme un logogriffe, un hiéroglyphe. En regardant le processus d'engendrement et de fragmentation inhérent au fascinant corps de Vélini, nous réalisons combien il excède la dimension purement matérielle et physique pour incarner une phénoménologie de la chair avec toute sa polysémie et toute sa symbolique. Comme échappant d'un rêve grandiose ou d'une dimension parallèle, le corps de cette femme désobéit à toute logique et affiche subversion et réversibilité. Avec lui, il s'avère clair que nous sommes devant une construction trompeuse dont la complexité ou la sobriété, l'hermétisme ou la porosité ne sont qu'apparents et illusoires quand on s'en approche et quand on s'enfonce dans leur profondeur. L'auteur, comme les personnages, Madame d'Artel, le vicomte de Prosny, Marigny lui-même ou Ermengarde, cherche à resserrer les angles, multiplier les raisonnements, examiner de près la femme, fouiller dans son corps et son âme, dans son passé et son présent, dans ses gestes et ses fragments, dans ses mots et son silence, une lueur d'espoir pour la compréhension de son mystère. On l'a remarqué ci-dessus, c'est le contraste et le paradoxe qui brouillent les limites entre le clair et l'obscur, entre la vérité et sa négation. Le corps de Vélini abrite la chose et son contraire, ce qui pose des embarras forts à toutes les tentatives de saisissement. Les deux incontournables concepts de la beauté et de la laideur se trouvent eux-mêmes sujets d'une problématique aiguë. C'est une femme laide, le narrateur l'avoue, plusieurs fois, mais du fond de cette laideur jaillit une beauté mystérieuse dont personne n'a pu détenir le secret, hormis Bellini elle-même et encore. L'expression suivante, je cite, « Pour aimer cet être changeant, beau, ailé, tout ensemble, il faut être un poète ou un homme corrompu », résume donc la densité symbolique et énigmatique de ce corps féminin. L'énigme se rattache ordinairement à l'âme par opposition à la chair, se déploie clairement dans les traits du cœur de Bellini. Tous les fragments attestent le mystère. Les yeux, le front, la bouche, les jambes, la taille recèlent une beauté qui est de la laideur. Madame d'Artel se proteste, je cite, « Tâchez de m'avoir des détails. Tâchez de savoir par quel diabolique talisman cette femme qui n'est ni jeune ni belle, dites-vous, a pris sur Marigny un ascendant qu'elle n'a jamais perdu. » L'expression exploite toutes les ressources de l'exagération pour tenter d'exprimer la forte influence qu'exerce Bellini par son corps, il importe de le signaler, sur tous les hommes de son chemin et tout particulièrement sur Marigny. Talisman n'est pas d'ailleurs le seul mot qui reprend périphrastiquement le sens de l'énigme. On trouve également dans le texte logogriffe et hiéroglyphe dans la phrase suivante, je cite, « On ne comprend rien à celle-là. » C'est un logogriffe. C'est un hiéroglyphe, c'est un casse-tête chinois, et peut-être était-ce tout cela qui fait sa puissance. En effet, l'âme de Bellini est menue d'un paradoxe ou du paradoxe comme l'est son corps. Au fond d'elle, on ne peut dissocier la passion de la haine, ni le sacrifice de la vengeance. Quand elle était sur le point de perdre Marigny suite à son mariage, ses réactions demeurent à l'image de son corps insaisissable et difficile à comprendre. Mais en tout cas, c'est le mystère qui prime. C'est la force et la violence qu'elle impose, autant que la tendresse et la soumission par son âme qu'en par son corps. L'amour, je cite, et la haine étaient envelinées autant que la laideur et la beauté. La mise en parallèle de ces quatre importants concepts de l'espèce humaine décline l'image d'une femme énigmatique qui les réunit ensemble dans une osmose étonnante. Car, on le sait bien, Bellini qui résiste à la compréhension pour l'autre est en parfaite harmonie avec elle-même et surtout la note est d'importance avec son propre corps. Si la chair vouée à la fragmentation ne peut que se dessiner par morceaux dans l'espace romanesque, la fusion du complexe réalité imaginaire n'est-elle pas, par ailleurs, meilleure résolution pour restituer le corps, ne serait-ce en l'ambiguisant. Le visiteur du texte aurobilien est introduit dans une nouvelle dimension qu'entraîne le corps référentiel, le corps décrit et peint et le corps restitué au temps de la lecture. La littérature emprunte ainsi au domaine pictural ses indicateurs pour exciter l'imaginaire du lecteur qui se plonge dans une dynamique activité de reconstitution du corps. La peinture et ses sources inspiratrices pour l'auteur sont fortement opératoires pour la prise de conscience des morceaux de chair. On sait que la littérature convoque la peinture, mais le plus intéressant, est qu'elle produit elle-même des tableaux. Ce que nous voyons sous la plume de Barbey de Robini, chacun des fragments du corps de Bellini est un détail d'une toile riche de touches et de couleurs. Le flou qui voile la toile de ce corps fait d'elle une création d'art nimbée de charme et de poésie. Pour rendre compte de la femme en tant que chair aux mille nuances, il faut écrire et il faut peindre. Ou peut-être faut-il écrire dans la peinture et écrire et peindre dans l'écriture. Les noces des deux arts sont des noces joyeuses dont le fruit mûr est indéniablement non plus voir le corps, mais plutôt le plaisir de le lire. Ultime compensation pour réconcilier un lecteur se heurtant au code du corps en fragments. Alors, ma dernière partie s'intitule « Espace ou ultime tentative de décodage ». Dès les premiers moments de la vie, il y a une interaction permanente entre l'être et le milieu dans lequel il évolue. Celui-ci, laissant dès le commencement des empreintes, devient un paramètre important dans l'analyse psychologique de l'être humain. La petite Bellini était élevée dans le luxe total. Elle, je cite, « fut obéie, servie, caressée, avec une action encore plus énervante que le luxe royal » qui l'entourait. Ce milieu et la façon de l'élever sont les codes pour comprendre sa personnalité. et comme son corps nous échappe car fragmenté sur l'espace de la page, en plus de son mystère inhérent à lui, l'investissement du potentiel spatial pour tenter de saisir ce corps devient une stratégie qui s'impose d'évidence et en toute logique. Médiation, analogisme, fusionnement et métamorphose sont les mots-clés de cet investissement. Ce sont en bref les modalités qui gèrent le rapport corps-espace et pour nous lecteurs, les paramètres de déchiffrage du corps féminin. En effet, l'espace dont une vieille maîtresse dépasse largement sa fonction de cadre. À plusieurs reprises, on est devant des spatialités actives et passives, parlantes et non muettes. Le corps, lui, est pour Vellini un vrai culte qui se nourrit de son âme extravagante et fantaisiste. Sa présence en fragments dans le texte rovilien n'enlève rien de son charme et accentue son côté énigmatique que le lecteur cherche vivement à dévoiler. L'espace s'érige donc comme une issue de secours pour cette opération de reconstitution, ce qui se montre au morceau. L'intimité du lieu, son enfermement, sont des qualités qui contribuent au rassemblement et à la réunion de ce qui est fragmenté. La description du corps de cette femme se fait le plus souvent dans des lieux enfermés, allant de l'appartement à la grotte en passant par la cabane de pêcheur. Le rétrécissement croissant visualise de plus en plus de corps dans un espace réduit qui minimise les distances et vise l'union. Au tout début de l'histoire, le constat qui s'ensuit du rapport corps fragmenté espace se rapporte essentiellement à l'analogisme. En effet, à l'image de la chair en morceaux de Vellini, l'appartement affiche mystère. Lui aussi. L'auteur signale à deux reprises le caractère masculin de cet espace. Je cite, l'appartement ne ressemblait guère à un appartement de femme ou encore, et on eût pu se croire chez un homme. Ces affirmations viennent enchérir sur le caractère incompréhensible de ce corps féminin hors norme. L'empreinte de bizarrerie qui teint le corps de cette femme se voit claire dans la comparaison avec son espace réduit, celui d'un homme. Alors, dans cette première étape qui se situe au début de l'histoire, l'espace se présente lui aussi par morceaux. On voit les draperies, les lambris, les rideaux, la cheminée, les fauteuils, les tapis, les meubles et d'autres détails que le lecteur essaie de visualiser pour voir l'espace et par son biais le corps. Les yeux, le front, les jambes, les cheveux, tout atteste la visibilité et l'impossible compréhension. L'hermétisme est une ouverture espérée que le récepteur doit chercher acharnement. Les fragments du corps féminin se réfléchissent sur l'espace habité qui devient de par sa réflexion l'outil de déchiffrage. Je cite, « Comment nous habitons notre espace vital en accord avec toutes les dialectiques de la vie ? Comment nous nous enracinons jour par jour dans un coin du monde, sans Pierre Bachelard dans son étude réservée à la poétique de l'espace. La maison est véritablement ce nid du monde dans lequel l'être peut se recueillir, se rétrécir dans sa coquille, interne ou s'ouvrir à l'univers extrême. Vellini est la femme qui désire abriter son corps dans des lieux fermés. On n'est pas face à une femme qui cultive la mondanité et la vie publique, mais un être amateur d'enfermement et de réclusion. Choisir une maison revient à faire l'option du retrait et décider de fonder son propre univers, à retrouver son être et à cultiver son corps pour Vellini. La clôture, le repli et l'hermétisme réunissent le corps féminin et l'espace habité et assignent au lieu les mêmes critères de ce corps. Les qualités de mystère, d'énigme, de résistance et de pénétration font écho aux qualités de repli, d'enfermement et d'hermétisme. La ressemblance évolue à plusieurs reprises vers une fusion. On peut parler du corps en termes d'espace, comme dans l'expression suivante. La chair établit la frontière, on est dans le paradigme de l'espace, de l'identité personnelle. Fin de citation. De même, parlant de l'espace qu'a choisi Vellini, l'auteur évoque, je cite, « cette grotte presque inaccessible, retirée, noire, profonde, tout comme elle, tout comme son corps, qui reste inaccessible et qui se définit par la profondeur ». Des fois, on trouve dans le texte de Barbey de Rovilly des phrases où les morceaux du corps s'entremêlent avec des lieux, un fusionnement qui brouille les limites entre le corps et l'espace qu'il habite ou qui l'entoure, à l'exemple de l'extrait suivant. La fille des balcons voilés de Malaga n'avait plus pour distraire la rêverie engourdie de ses longs yeux noirs que la vue éternelle du Varache accumulait devant les portes de ses chaumines. On souligne nettement l'entrelacement et l'interférence entre les fragments du corps et des parties du lieu, et c'est de par ce fusionnement que l'espace sert de médiateur à la visualisation du corps féminin fragmenté. L'extrait suivant établit également ce rapport de fusionnement entre le corps et l'espace et du corps dans l'espace. Je cite, « Je vis nettement la malagaise assise sur le pied de mon lit, mais le buste penché vers moi, ayant pour point d'appui sa main posée près de mon lit, mais le buste penché vers moi, ayant pour point d'appui sa main posée près de mon épaule. Son visage effleurait tellement mon visage que c'était sans doute la laine de sa bouche entrouverte qui était passée sur mes paupières. » Fin de citation. On parle là en termes d'espace, du corps en mouvement, et on vient de l'évoquer tout à l'heure, le mouvement est un paramètre important dans la reconstitution de la chair en morceaux. C'est un facteur unifiant qui est intrinsèquement lié à la valeur de l'espace, car l'action, le geste, le déplacement ont besoin de spatialité. Dans l'extrait précédemment cité, on décèle le fusionnement du corps dans l'espace à travers une fusion du paradigme spatial avec celui de la chair. Buste, main, visage, bouche d'un côté et pied du lit, assise, penchée, point d'appui et effleurée de l'autre. En résulte de cette osmose un mouvement d'une grâce accablante. La chair morcelée et en mouvement investit la valeur de l'espace pour se déployer et donner chance à la reconstitution. La fusion entre les éléments du corps et ceux de l'espace atteint son paroxysme et tend vers la métamorphose vers la fin du roman. Dans l'extrait suivant, on décèle une nette amalgame, un vrai fusionnement qui dépasse le croisement et l'interférence. Je cite, « La vie pour moi n'existait pas à hors de Bellini. Je la passais tête à tête avec mes souvenirs des jours précédents, de la veille, d'il y avait une heure, m'énivrant des traces laissées sur les meubles que son corps souple avait pressé, qu'il avait tiédi et où je la cherchais encore. » Métaphoriquement, ce dernier extrait avoue le caractère fouillant et inaccessible du corps féminin décrit sur l'espace de la page, un mirage qu'on tente vainement de saisir et de circonscrire. Au terme de ce chapitre réservé aux différentes modalités d'investissement de l'espace pour reconstruire la chair féminine en morceaux, on se confie à l'ouverte déclaration de l'auteur sur la force du corps féminin qui contribue à la métamorphose de l'espace. Dans la phrase suivante, dans cette cabane jonchée de paille, comme une grange, la plus voluptueuse des filles de la terre, la plus accoutumée à toutes les opulences de la vie, cette capricieuse qui posait en riant ses pieds bruns sur le sein nu de sa superbe Olivia, resta sur des jambes sèches. C'est un corps, fin de citation, c'est donc un corps qui s'accommode, Dieu qui lui inculque ses qualités, se fusionne avec lui et se définit en ses propres termes. Dans l'espace, nous lisons la souplesse, la fermeté, l'alignation ou la résistance du corps féminin. Et nous tentons par son biais de visualiser l'allure et de reconstruire ses parties. Bellini, cette femme hors norme, intériorise le Dieu et se laisse intérioriser par l'espace, une sorte d'envoûtement qui permettrait une lisibilité permanente et équivoque de l'un dans l'autre. Alors, en guise de conclusion, nous disons que c'est ainsi que se dessine, du moins, l'avons-nous cru, le corps féminin tel qu'il se présente sous la plume de cet auteur fin de siècle. Si Barbey d'Aurevilliers échappe relativement à la tradition 19e qui laisse à peine le corps exister, il se trouve tout de même face à cette évidente fragmentation de la chair féminine. L'audace et la persévérance qu'il montre dans le traitement du corps féminin brouillent les limites dans la description. Ce n'est nullement la discrétion poétique qui enveloppe peut-être la femme baudelairienne, ni le détail fin et pudique du personnage basacien ou stendhalien. C'est plutôt la chair nue, le corps libre et libéré de toutes les contraintes, la chair en action, en mouvement, que la pudeur n'entrave nullement. C'est en définitive le corps d'une femme naturelle, presque sauvage, qui va jusqu'au bout de ses désirs les plus extravagants qu'ils soient. C'est ainsi que l'étude phénoménologique a permis d'appréhender les contours de ce corps sans parvenir à le contourner nettement. Les détails sur les fragments tous les morceaux du corps de Bellini ne manquent nullement au texte. Une fois cette lucidité, cette prodigalité et cette générosité dans la description du corps sont mises en place, il a fallu réunir, recomposer, visualiser et interpréter cette chair parsemée en détails, en morceaux sur l'espace littéraire pour l'expression de Maurice Blanchot. Deux constats majeurs découlent de cette étude du phénomène du corps féminin, tel qu'il se présente sous la plume de Barbey de Rovigny, à savoir l'étrangeté et le mystère. Le corps de la Senora se teint d'énigmes, d'abord de par même sa fragmentation. Souvent, les morceaux réunis ne collent pas ensemble, d'autant plus que l'auteur lui-même se déclare en parfaite confusion face à ce corps hallucinant qui n'est ni beau ni laid, mais qui charme plus que tout autre. Une femme hors norme qui ajoute au mystère inhérent à la fragmentation un mystère inné, qui émane d'elle et teint toutes les parties de son corps. Tout ceci complique la tâche de reconstitution qui exige dès lors des techniques et des stratégies. L'espace vient en tête de cette mission de décodage et de reconstitution, comme on l'a démontré, car facteur déterminant et puissante issue de ce cours, issue de, pour parvenir à visualiser le corps féminin. Le mouvement revient... investit lui aussi les qualités de l'espace et assigne au corps une touche unifiante. Il nous reste donc à dire que toutes les tentatives de reconstitution et de saisissement du corps féminin nous échappent du fait même de son morcellement. Il nous reste également de finir avec cette phrase de l'auteur. Jamais je ne compris mieux qu'elle métamorphosait la vie autour d'elle, comme confirme le texte. Une vieille maîtresse pose des interrogations sur le charme féminin, sur le mystère de la femme et l'énigme que suppose son corps, et sans donner de réponse, il offre des pistes de déchiffrage dont l'espace constitue un facteur important. Reste à savoir si la force de l'acte, l'étireur de ce produit artistique qui est l'œuvre, ne réside-t-elle pas en définitive dans ce non-dit qui fonde toute une poétique du corps féminin fragmenté. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je ne vais pas oublier de remercier également de tout cœur Madame Véronique Knokaer, Madame Marie-Ange Fougère et Madame Valois qui ont collaboré pour que cette intervention ait lieu.